21 février 1984, théologie naturelle, la création, Père Marie-Dominique Philippe Rimand.
Création. Il peut y avoir des instruments dans l'ordre surnaturel, l'humanité sainte du Christ, l'humanité de Marie, ce que nous appelons le sacerdoce royal des fidèles, montre que tout l'ordre surnaturel implique des médiations. Peut-il y avoir une médiation dans l'ordre de la création? C'est très important parce que vous voyez que si on ne fait pas la distinction entre les deux, alors nécessairement on verra les oppositions. Si on ne veut pas une distinction entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel, qui est un des aspects, vous savez bien, très délicat aujourd'hui au point de vue théologique. Alors, par le fait même, on aura deux positions extrêmes. Ceux qui attribuent à l'ordre naturel ce qui est vrai dans l'ordre surnaturel, et ceux qui attribuent à l'ordre naturel ce qui n'est vrai que dans l'ordre naturel et qui n'est pas vrai dans l'ordre surnaturel. Et vous avez deux positions extrêmes. La position de ceux qui nient la médiation dans l'ordre surnaturel, on la connaît, et la position de ceux qui affirment une médiation dans l'ordre naturel. Alors, nous allons essayer d'entrer dans cette position très intéressante, cet article. Saint Augustin assure que ni les bons ni les mauvais anges ne peuvent être créateurs d'une chose quelconque. Possunt esse creatores aliquius rei. À plus forte raison en est-il de même des autres créatures. Alors voici la réflexion de saint Thomas. Il apparaît assez au premier regard, donc satis apparaît. C'est assez rare que saint Thomas dise ça. D'habitude, c'est patet. Hein. Tandis que là, il y a le satis apparaît. Hein. Il y a un gros brouillard. Voilà ce que ça veut dire. Hein. Il apparaît assez au premier regard, après ce qui précède, que créer ne peut être la propre action que de Dieu seul. Satis apparaît. In primo aspectu, secundum premissa, quod creare non potet esse propria actio nisi solius Dei. En effet, les effets les plus universels doivent être rapportés au plus universel et au plus élevé des causes. Donc on met le rapport entre les effets et les causes. On parle des effets. Il y a un lien entre effets et causes. Il y a un rapport entre les deux. Donc plus les effets sont universels, plus leur cause doit être universelle. Or, entre tous les effets, le plus universel est l'essai lui-même. Inter omnes autem effectus universalissimum est ipsum esse. Alors, l'essai, traduisez d'une façon précise, acte d'être. Donc l'effet le plus universel, c'est vrai pour toutes les réalités qui existent ont l'essai dont existent. C'est l'exister, si vous voulez. L'effet le plus universel, c'est l'exister. Parce que toutes les réalités existent. Toutes les réalités que j'expérimente, que je vois, existent. Donc c'est l'effet absolument le plus universel. Or, entre tous les effets, le plus universel est l'acte d'être, l'essai. Il faut donc qu'il soit l'effet propre de la première et de la plus universelle des causes. un lien entre les deux. Il faut donc qu'il soit l'effet propre de la première et la plus universelle des causes qui est Dieu. Aussi, lit-on dans le livre des causes. Alors, faisons attention, saint Thomas ne s'appuie pas sur le livre de causes, il donne une illustration. Aussi, lit-on dans le livre des causes que ni une intelligence, ni une âme ne donne l'essai, si ce n'est en utilisant une vertu divine. Le livre des causes est de saveur néoplatonicienne, hein, c'est-à-dire de Proclus. Maintenant, on est sûr que le de causis, hein, c'est le de causis, ce qu'on appelle le de causis. Vaut mieux le donner en latin. Le livre des causes, on va très bien. Tandis que quand vous appelez le de causis, vous savez que c'est Proclus. Hein, c'est Proclus, néoplatonicienne. Alors, pour les néoplatoniciens, il y a une espèce d'intérêt, il y a une possibilité qu'une cause seconde ait une vertu divine, une vertu créatrice. Vous voyez, c'est dit ici. Hein. Or, lit-on dans le livre des causes que ni une intelligence, ni une âme ne donne l'être, si ce n'est en utilisant une vertu divine. Or, produire l'être pris absolument, non selon ce qu'il est tel ou tel, est l'ouvrage de la création. L'ouvrage, c'est-à-dire est l'effet de la création. Il est donc manifeste que créer est la propre action de Dieu seul. Ça appartient, partinette ad rationem creationis. Hein. Donc produire l'être pris absolument, non selon qu'il est tel ou tel être, appartient à la ratio creationis. Vous voyez, alors quand vous traduisez l'ouvrage de la création, c'est tombé dans de la vaseline. Hein. Alors ce n'est plus la ratio creationis, la raison de la création. La raison de la création regarde l'essai. Ça, c'est très important. L'essai, la ratio creationis, regarde l'essai. Unde manifestum est, quod creatio est propria actio ipsius Dei. Donc, vous voyez, ce petit intermède du de causis, hein, vous pouvez le supprimer. C'est très bien. Au fond, tout simplement, de voir que, parce que le raisonnement de saint Thomas est très net, l'essai, c'est l'effet le plus universel. Donc, il dépend nécessairement de la cause première et la plus universelle, qui est Dieu. Et donc, l'essai est le fruit de la création. Pourquoi ? Parce que la création, la ratio créationniste, regarde l'essai. Créer, c'est donner l'être. Tandis qu'au contraire, lorsqu'il s'agit d'une autre action, il ne donne pas l'être. Il donne telle ou telle forme. Engendrer, ce n'est pas donner l'être. C'est de communiquer une nature vivante. Donc c'est donner tel ou tel être. Ce n'est pas donner l'être. Alors, engendrer ou transformer ou transsubstancier, n'est-ce pas, ce n'est pas donner l'être, puisque c'est à partir d'une autre réalité la transformation radicale de cet être par rapport à une autre. Mais il y a quelque chose de commun qui demeure pour le mystère de la transsubstantiation, que nous verrons cet après-midi. On verra la création et la transsubstantiation, on verra la différence entre les deux. Mais il arrive qu'un être opère une action propre à un autre, non par sa propre vertu, mais à titre d'instrument, et par la vertu de cet autre, comme l'air, par la vertu que le feu lui communique, échauffe et brûle. Alors ça, c'est l'instrument dans l'ordre de la communication. L'air, par lui-même, ne brûle pas, mais l'air peut être un instrument qui communique le feu. De là vient que certains penseurs, tout en disant que la création est l'effet propre de la cause universelle, estimèrent que, agissant en vertu de ses causes premières, une cause inférieure même peut créer. C'est ainsi que, d'après Avicenne, la première substance séparée, créée par Dieu, en crée après soi une seconde, puis la substance de l'orbe du ciel avec son âme. Et à son tour, la substance céleste crée la matière des corps inférieurs. De la même manière, le maître des sentences assure que Dieu peut communiquer à la créature le pouvoir de créer de telle sorte qu'elle crée par intermédiaire, par instrumentalité, non de sa propre autorité. Le maître des sentences soutenait ça sous l'influence d'Avicenne. Mais cela ne peut pas être, car une cause seconde instrumentale ne participe pas à l'action d'une cause supérieure qu'en procurant par quelque chose qui lui est propre une disposition favorable à l'effet de son agent principal. Alors ça, c'est très intéressant pour toute la philosophie de ce que représente la cause instrumentale. Quia causa secunda instrumentalis non participat actionem causae superioris. Donc la cause seconde instrumentale ne participe pas à l'action de la cause supérieure, si ce n'est in quantum, si ce n'est qu'en tant que par aliquid, par quelque chose, sibi proprium, dispositive operatur. Si ce n'est que par quelque chose qui lui est propre, il opère d'une manière dispositive à l'acte, à l'effet principal de l'agent. C'est ce qui est traduit de cette manière-là. Donc, mais cela ne peut être car une cause seconde instrumentale ne participe à l'action d'une cause supérieure qu'en procurant par quelque chose qui lui est propre une disposition favorable à l'effet de l'agent principal. Si donc elle n'apportait là rien qui lui fût propre, c'est en vain qu'on l'emploierait à agir. Et il ne serait pas nécessaire de choisir pour des actions déterminées des instruments qui lui correspondent. Vous n'avez qu'à prendre votre porte-plume, le bic, ça sert de causalité instrumentale. Et il y a une petite disposition. La preuve, c'est que quand ça ne marche plus, vous êtes obligé de changer, n'est-ce pas? Et vous ne pouvez pas prendre votre doigt pour le plonger directement dans l'encre et vous en servir, hein, parce que votre doigt n'est pas tout à fait assez fin pour servir de bic, n'est-ce pas? Primitivement, c'est ce qu'on peut faire. Vous n'auriez pas de bic, vous auriez de l'encre, qu'est-ce que vous feriez, hein? Prendriez votre doigt et puis un petit peu gros, ça ferait une affiche, mais ça servirait quand même, n'est-ce pas? Ce serait un instrument, et vous verriez tout de suite, d'après les faits, que l'instrument est assez gros. Vous verriez immédiatement. Et l'instrument joue le rôle de dispositiver. Il joue le rôle de dispositiver. On va revenir là-dessus, parce que c'est très intéressant, ça. Si donc, elle n'apportait là rien qui lui fût propre, donc l'instrument, la causalité instrumentale, c'est en vain qu'on l'emploierait à agir. Et il ne serait pas nécessaire de choisir pour des actions déterminées des instruments qui lui correspondent. Ainsi, voyons-nous que la hache, en fendant le bois, ce qu'elle tient sa propre forme, réalise la forme du lit, en effet, effet propre de la cause principale, de l'agent principal. Mais ce qui est l'effet propre de Dieu créateur et ce qui se trouve présupposé à tout le reste, savoir l'être pris absolument. Rien donc ne peut être fait instrumentalement à titre de disposition en vue de cet effet-là. Attendu que la création ne présuppose rien qui se puisse disposer par l'intervention d'un agent jouant le rôle d'instrument. Ainsi donc, il est impossible qu'aucune créature Ainsi donc, il est impossible qu'à aucune créature il appartienne de créer, soit par sa vertu propre, soit à titre d'instrument ou par ministère. Ajoutons qu'il est particulièrement choquant de dire d'un corps qu'il peut créer, vu que le corps n'agit qu'au contact et en donnant le mouvement, et qu'il requiert donc pour son action quelque chose de préexistant, qu'il puisse toucher et mouvoir. Or, cela répugne à l'idée de création. Et c'est un très bel article, difficile, parce qu'il met en cause, de point de vue de la causalité instrumentale, et la causalité instrumentale est toujours une chose difficile. C'est un des lieux principaux où saint Thomas traite de la causalité instrumentale. Et ce point de vue-là est extrêmement intéressant, de bien voir qu'est-ce que c'est que la cause instrumentale vue par rapport à la cause principale. Donc, je reprends, si vous voulez, pour que nous essayions de bien saisir ça. C'est très important. C'est très important parce que c'est le lieu, si vous voulez, de rencontre de l'aristotélisme et du néoplatonisme. Au fond, le néoplatonisme accepte qu'il y ait une cause instrumentale pour la création. Avicenne, représentant du néoplatonisme dans une grande pureté. Alors, Avicenne, la position d'Avicenne, elle est simple. Il y a un premier qui crée l'intelligence. Le nous, relié à l'un comme cause instrumentale, va être cause de l'âme universelle. Et l'âme universelle, liée au nous et liée à l'un, va être cause instrumentale de la matière. Et c'est une interprétation. C'est une interprétation de Plotin, on voit très bien, chez Plotin, le passage de l'un à l'intelligence, au nous séparé, aux substances séparées, et le nous lié à l'un dans sa contemplation peut devenir cause instrumentale de l'âme universelle. Et l'âme universelle liée au nous va devenir cause instrumentale de la matière, et donc du cosmos physique. Donc on se trouve devant une tradition théologique qui provient d'Avicenne. On ne dit pas que Albert le Grand l'a assumé, mais le maître des sentences. Et alors ce serait très intéressant ici de regarder la position de saint Thomas dans les sentences, dans son commentaire des sentences. Où saint Thomas, dans son commentaire des sentences, est beaucoup moins affirmatif que dans la Somme. Et le passage d'Aristote. Pour moi, c'est le lieu le plus net où on voit comment saint Thomas se purifie complètement de tout le néoplatonisme pour avoir une vision beaucoup plus nette, qui est une vision au point de vue. Comment il assume l'aristotélisme. C'est là où on doit le voir. Parce que toute une tendance, donc, c'est la tendance d'Avicenne. La tendance d'Avicenne, c'est la tendance néoplatonicienne. C'est impliqué que pour la création, il peut y avoir une causalité instrumentale. Alors, il faut se demander pourquoi les néoplatoniciens disent ça. Pourquoi dans le néoplatonisme, on peut impliquer la causalité instrumentale, alors que dans l'aristotélisme, non. Du moins, dans la position de saint Thomas, parce que Aristote n'a pas traité cette question-là, n'est-ce pas ? Mais dans saint Thomas, non. Et saint Thomas-là se purifie de toute tradition néoplatonicienne. On va essayer de comprendre ça. Hein. Bon, alors regardons d'abord le premier moment de l'argumentation de saint Thomas. C'est simple. C'est d'essayer de comprendre la correspondance qui existe entre effet et cause. Nous rejoignons là l'article premier de toute cette question sur la création. Donc, question 44, mettez en parallèle, question 44, article 1er. Et ce que nous voyons ici, dans cette question 45, article 5. Il y a un parallélisme rigoureux entre les deux. Si on a compris 44, article 1er, on comprend immédiatement ce que saint Thomas dit ici. Donc vous vous souvenez ce que je vous ai dit à ce moment-là, hein? Attention de comprendre la cause à la manière dont saint Thomas la comprend, et non pas dans une perspective de Kant. Donc il faut comprendre la cause comme un principe, comme une source, et comprendre qu'il y a un lien essentiel entre effet et cause. L'effet est totalement dépendant de la cause, il est totalement dépendant du principe. Il est tout entier relatif à la cause et au principe. Il y a un lien entre les deux. Plus l'effet est universel, plus la cause doit être universelle. Facile à comprendre, parce qu'il y a un lien essentiel entre les deux. Nous voyons l'effet, on ne voit jamais la cause, hein, n'oubliez jamais, hein. La cause, on la découvre. L'intelligence seule peut saisir la cause. Et nos sens saisissent l'effet. On constate un effet, on l'expérimente. Mais la cause, on la découvre. On découvre une cause, c'est très important ça. Tandis que pour Kant, on ne découvre pas une cause, puisque c'est une condition sine qua non. Ce sont deux réalités qu'on met en relation. A et B. Tandis qu'ici, on découvre. Eh bien, l'effet le plus universel, c'est l'essai. Donc, il dépend de la cause la plus universelle. La cause la plus universelle, selon question 44, article 1, c'est Dieu. Cause efficiente de tout ce qui est. Vous voyez que ces deux questions se tiennent. Hein? Simplement, une fois qu'on a compris. Question 44, article 1, on comprend immédiatement ce que nous dit saint Thomas ici. Et si on n'a pas vu ça, c'est difficile de comprendre cette question. Saint Thomas donne un ordre pédagogique, hein, n'oubliez pas. Alors on est obligé de bien comprendre comment un article dans une question se rattache à l'autre. Saint Thomas, dans la question 44, montrait que toute réalité existante autre que Dieu nécessairement était causé par Dieu. Et saint Thomas se servait comme médiate, comme métaxu, du point de vue de laisser participer. Dieu seul subsiste dans son existence. Il est absolument simple dans son existence. Toute réalité en dehors de Dieu participe l'essai. Donc, l'essai dans toutes ces autres réalités dépend de Dieu. Ici, saint Thomas va laisser comme l'effet le plus universel dépend de la cause la plus universelle. Ça, c'est relativement facile à saisir. Hein? Le raisonnement, faisons attention, hein? Dépasser toujours le raisonnement, puisque le raisonnement, c'est d'ordre logique, et essayer de saisir le point de vue de sagesse qui est dedans. La sagesse consiste à comprendre ce que c'est que le c'est, l'exister, acte d'être, et comprendre que l'exister, l'acte d'être, qui nécessairement, dans toutes les réalités que j'expérimente, est un essai participé, un essai second, et bien cet essai second est en relation essentielle et immédiate avec la cause première. Dès que je constate l'exister, je dois remonter, pour saisir sa source, à la cause première. L'exister n'a pas d'autre source que la cause première. Mon exister. Alors, je ne le sens pas, hein, je n'ai pas tâté le tout, et bien en disant, oui, je touche Dieu. Non. Vous expérimentez que vous existez, j'espère. N'est-ce pas ? En faisant grande attention. Vous expérimentez que vous existez. Vous expérimentez que vous vivez. Ça, c'est du vécu. L'exister n'est pas du vécu. On confond souvent les deux. C'est pas du vécu, l'exister. L'exister est au-delà du vécu. Donc vous pouvez expérimenter « j'existe ». Quand vous dites « j'existe », c'est un au-delà de votre expérience. Parce que votre vécu, c'est pas votre exister. C'est pour ça que vous pouvez avoir une angoisse métaphysique, hein. De votre vécu, vous n'avez pas d'angoisse. Mais de votre exister, c'est différent, puisque vous n'avez pas l'expérience immédiate. Alors il y a un passage entre les deux, hein, entre le vécu et l'exister. C'est ce que dit saint Thomas quand il dit que justement qu'on peut avoir le vertige de l'exister parce que mon exister est d'abord du néant. Je ne peux pas dire ça de mon vécu, mais mon exister, oui. Alors, je peux saisir cela, que mon exister comme tel fait appel directement à la cause première. Je vais plus loin et je dis qu'entre l'essai et la cause première, il ne peut pas y avoir de cause instrumentale. S'il ne peut pas y avoir de cause instrumentale, il faut nécessairement que la cause première soit présente immédiatement à l'effet. C'est la fameuse affirmation au point de vue théologique de la présence d'immensité du Créateur. Le Créateur est présent à tout être qui existe par lui. Et d'une présence de suppôt à suppôt, c'est-à-dire une présence substantielle, pas par l'intermédiaire de quelque chose d'autre. Si Dieu pouvait se servir d'un instrument, il ne serait pas immédiatement présent. Donc il n'y aurait plus la présence d'immensité. Il y aurait une présence de celui qui est tout puissant, comme je peux être présent quand j'envoie quelqu'un, un messager, on vient en Afrique, au nom de la communauté Saint-Jean. Une présence, donc, pas d'immensité, je suis présent uniquement par l'ordre intentionnel. C'est de l'ordre intentionnel, c'est une présence intentionnelle. C'est pas une présence existentielle. Tandis que Dieu est présent d'une présence existentielle, c'est toute la différence. Nous, c'est par l'intermédiaire de quelqu'un. C'est très important de saisir ça. Et vous voyez, quand, au point de vue théologique, on essaiera de revenir là-dessus ce soir, rappelez-le-moi, quand on dit que, au point de vue de la consécration, le prêtre agit in persona Christi, on va montrer que c'est plus que uniquement un envoyé. Et ce n'est pas la présence d'immensité, c'est entre les deux. Très curieux ces choses-là, c'est très très intéressant à voir, c'est une chose qui est intéressante d'essayer de préciser, parce que justement, on répète des mots et on ne comprend pas ce qu'il y a derrière, hein. Alors il faut essayer de saisir ce qu'il y a de particulier dans cette présence d'immensité, pas possibilité de causalité instrumentale. Alors, comprenons, comment il ne peut pas y avoir la création répugne à la causalité instrumentale. Et répugne métaphysiquement. Dieu ne peut pas se servir de l'humanité sainte du Christ pour créer. La création ne s'est pas faite par l'humanité sainte du Christ. Dieu peut sauver les hommes par l'humanité sainte du Christ, et il le fait. Il les sauve, le salut. Mais pas, il ne les crée pas. Dieu peut se servir de l'humanité sainte du Christ pour réaliser des miracles, ressusciter Lazare. Les pleurs de Jésus ont ressuscité Lazare. Hein? Causalité instrumentale. Et c'est vrai, les pleurs de Jésus ont sauvé Lazare. Il fallait que le cadavre de Lazare soit porté par le cœur du Christ et par les pleurs de Jésus, comme causalité instrumentale. Mais l'humanité sainte du Christ et le cœur de Jésus n'est pas instrument de création. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que la causalité instrumentale ? Le propre de la causalité instrumentale, c'est d'être une causalité qui n'agit que grâce à la cause première, à la cause principale, disons, cause principale. Parce qu'il peut y avoir des causes secondes principales. Enfin, quand vous écrivez, vous êtes cause seconde principale du gribouillis qui est sur le papier, n'est-ce pas, et de votre écriture sur le papier, et des petits dessins qui sont sur le papier, n'est-ce pas. Alors vous êtes cause seconde principale. Votre porte-plume est cause seconde instrumentale. Votre main est cause instrumentale conjointe. Immédiate. C'est pour ça que si vous avez mal à la main, un peu de rhumatisme, n'est-ce pas, ben vous écrivez moins bien. ça se ressent. Si votre bic est usé, la plume est usée, vous écrivez moins bien. Vous écrivez gros, pas fin. N'est-ce pas ? Alors, il y a quelque chose qui ne va plus. L'écriture s'en ressent. Il est fait et on peut tout de suite l'analyser. Si le papier est mauvais, il y a aussi l'effet. Mais vous voyez que la coopération de l'instrument et la coopération de la matière ne sont pas les mêmes du tout. Et c'est ça qu'il faut saisir. La cause instrumentale agit par la cause principale, par la vertu. La cause principale se sert de la cause instrumentale en agissant sur elle, en lui communiquant une vertu. Parce que si vous laissez votre bic sur la table, il n'agit pas. Dès que vous l'avez dans votre main, vous le regardez attentivement, il y a une vertu qui passe en lui. Et vous ne le voyez pas. Il ne rougit pas. Mais il y a une vertu qui passe en lui. Vous l'avez en main. Et vous dites, je l'ai bien en main. Alors que si vous ne l'avez pas en main, la vertu passera moins bien. Et vous l'avez bien en main, qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous le ramenez à vous, et vous êtes attentif à ça. Si vous n'êtes pas attentif, la vertu ne passe pas. C'est pour ça que quand un travail se fait sans attention, le tournevis, hein, il tremblote. Et vous n'arrivez pas à faire les choses. Parce que c'est l'instrument qui doit être en main. Et pour être en main, il doit être relié à l'intention profonde de la cause principale. Et la vertu implique d'être relié à cette cause principale. On est attentif à ce qu'on fait. Donc, on est mobilisé à cette attention. C'est ça la virtus qui passe. Alors, il y a de l'intentionnalité, mais une intentionnalité qui agit sur le monde physique. Toute la question de l'application. Si vous n'êtes pas appliqué, la cause instrumentale, elle flotte. Elle flotte de multiples façons. Parce qu'elle n'est pas reliée. Vous ne l'avez pas en main. Vous n'êtes pas attentif. La vertu, c'est la vertu de la cause instrumentale. C'est très très intéressant à voir ça. La cause instrumentale comme cause instrumentale est toute relative à la cause principale. Elle est ordonnée à cette cause principale. C'est pour ça que Jean de Saint-Thomas dit que la cause instrumentale est premièrement ordonnée à la cause principale et secondairement, grâce à la cause principale, ordonnée à l'effet qu'elle doit produire. Une cause instrumentale qui est consciente, c'est-à-dire quand vous agissez comme un instrument. On vous demande d'exécuter quelque chose, vous êtes le tournevis de celui qui vous demande d'exécuter ça. Et alors, si vous êtes un bon tournevis, vous êtes tout entier relatif à la cause principale qui vous commande. Si au contraire, vous n'êtes pas attentif à ce qu'on vous a demandé, vous faites à votre tête. Et par le fait même, vous ne faites plus ce qu'on vous a demandé. Et celui qui vous a demandé ça, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Vous n'avez pas demandé vers Dieu ? Ah, ça m'a semblé mieux. Hein, c'est ça, ça semble mieux. Mais non, c'était pas ça qu'on vous demandait. La cause instrumentale est ordonnée en premier lieu à la cause principale avant de regarder les faits. Ça, c'est capital, ça. Tant qu'on n'a pas compris ça, on est un mauvais instrument. Et on ne peut pas se servir de vous. Alors, quand il s'agit du tournevis, c'est l'obéissance ad nutum. Hein. Parce que le tournevis, il sait très bien qu'il est d'abord ordonné à la main qui le prend avant d'être ordonné à la vis qu'il va visser. Non. Donc il est ordonné en premier lieu. C'est ça, être en main. Alors, quand on est une cause instrumentale vivante, on doit être ordonné en premier lieu à la cause principale, vis-à-vis de la cause principale qui se sert de nous, et par elle et avec elle, ordonné le fait. La cause instrumentale, c'est donc toujours une cause relative à la cause principale. Elle n'est jamais première en tant qu'instrumentale. Elle est toujours seconde. La cause instrumentale, elle joue le rôle d'intermédiaire, de métaxu.
Elle joue le rôle de métaphysique, elle est dans l'intermédiaire, elle relie la cause principale à l'effet qui va être réalisé. Et si ma main était suffisamment forte, je n'aurais pas besoin de poils pour chauffer un œuf. Et je mettrais l'œuf dans ma main et puis je me ferais. L'œuf se cuirait, tout simplement. Bon, mais je me sers, parce que ma main est trop fragile, alors je me sers d'un instrument. Si mes ongles étaient suffisamment solides, je n'aurais pas besoin de tournevis. Hein? Et je m'en servirais directement. Alors j'aurais comme ça un tournevis toujours. Mais c'est parce que justement ce n'est pas assez solide que je me sers d'instrument. Et l'instrument prolonge ma main. C'est que ma main devient d'acier, que ma main devient de quelque chose de particulièrement fort. Donc, vous voyez bien, l'instrument joue le rôle de métaxu. Il joue le rôle de métaxu, c'est-à-dire qu'il relie la cause principale à l'effet qu'il doit réaliser. C'est parce que l'instrument est toujours médiateur. Tout médiateur est instrument et tout instrument est médiateur. C'est ça être médiateur au point de vue métaphysique. Hein. C'est jouer ce rôle de relier deux êtres qui sont trop lointains, trop loin l'un de l'autre. Quand la cause principale est vraiment principale, elle a besoin de causes intermédiaires, de causalité instrumentale, pour jouer ce rôle. Et elle se sert d'instruments pour relier. Donc, la cause instrumentale joue le rôle de métaxu. Par le fait même, elle aura un rôle propre à jouer, adapté. C'est le rôle de l'adaptation, au point de vue métaphysique. C'est ce que saint Thomas appelle le dispositivé. Le dispositivé, c'est l'adaptation. Donc ça joue ce rôle de dispositivé. Une manière dispositive, hein. ça adapte, ça me permet à l'influx de la cause principale d'être parfaitement en contact. C'est le contact qui va réaliser entre la cause principale et la matière sur laquelle je vais agir. Et donc le dispositivé va agir sur le point de vue de la matière, va permettre à la cause instrumentale d'être vraiment rôle instrumental. C'est pour ça que l'effet propre de la cause instrumentale est de l'ordre de la disposition. Donc vous voyez ce que c'est que dispositivé dont parle saint Thomas ici, hein, parce que ça c'est difficile à bien saisir. C'est le dispositivé, c'est que la cause instrumentale joue le rôle d'intermédiaire, de médiateur. Donc elle joue ce rôle d'être ce qui va relier. Il y aura donc un effet propre de la cause instrumentale qui est de l'ordre de la disposition. Et l'effet propre de la cause principale qui se sert de l'instrument, alors dépasse la vertu de l'instrument. Et donc l'instrument n'explique pas par lui-même l'effet qu'il a produit. C'est l'exemple de l'art. L'instrument n'explique pas par lui-même l'effet qu'il a produit, mais c'est la vertu de la cause principale, passant par l'instrument, qui rend raison de l'effet produit. Donc il y a toujours, quand il s'agit d'une causalité instrumentale liée à la causalité principale, il faut toujours reconnaître ce qu'il y a de propre à l'instrument, le dispositivé, et ce qu'il y a de propre à la cause principale se servant de l'instrument. Et ceci, on peut le faire dans l'analyse. Quand vous regardez une statue, vous pouvez tout de suite voir quel a été l'instrument dont se servit l'artiste. Si vous êtes un peu qualifié. Si vous ne l'êtes pas, vous voyez rien du tout. Mais si vous êtes un peu qualifié, vous regarderez. Quand vous voyez une peinture, vous pouvez voir immédiatement quel a été l'instrument dont on s'est servi. Parce que vous pouvez analyser le dispositivé par rapport à l'effet principal. L'effet principal, évidemment, relève de l'inspiration. Parce que ce n'est pas le pinceau tout seul qui a marché. Il fallait l'inspiration. Mais le pinceau a traduit l'inspiration. Ou
le ciseau du sculpteur a traduit l'inspiration à travers telle ou telle matière. Donc, vous pouvez toujours, dans n'importe quelle réalité, n'importe quelle œuvre, discerner, si vous êtes qualifié, l'instrument dont on s'est servi et l'intention profonde de la cause principale. C'est ce que saint Thomas fait ici quand il nous dit que toute cause instrumentale implique nécessairement un dispositivé. Et saint Thomas ajoute, dans la création, il ne peut pas y avoir de dispositivé. Pourquoi ? Parce que la création se fait à partir de rien. Or, le dispositivé, c'est justement l'application de la cause instrumentale vis-à-vis de la matière. S'il n'y a pas de matière précédente, il ne peut pas y avoir de causalité instrumentale. Autrement dit, la cause instrumentale, à cause du dispositivé, est toujours dans l'ordre du devenir. Toute causalité instrumentale est dans l'ordre du devenir. S'il n'y a plus de devenir, il n'y a plus de cause instrumentale. La cause instrumentale est toujours dans l'ordre du devenir. Or, la création n'implique aucun devenir, aucune disposition, puisqu'elle n'implique aucune matière. Elle est à partir de rien. Elle est un don de l'être. Donc, lorsqu'il s'agit de la création, il ne peut pas y avoir de causalité instrumentale. La causalité instrumentale est impossible. On y reviendra là-dessus, parce qu'on peut le regarder d'une autre manière, qui peut-être est encore plus métaphysique que ce que dit saint Thomas. Là, saint Thomas nous montre tout simplement qu'il n'y a plus de place pour le métaphysique. Il n'y a plus de place pour la médiation. La création implique qu'il n'y a pas d'intermédiaire. C'est propre de la création, d'impliquer qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de matière. Vous comprenez que l'importance de la médiation, c'est à cause de la matière, c'est de relier la matière à la cause principale. Et c'est vrai que c'est relier la cause principale, la matière à la cause principale. La matière que je travaille, la matière que je vais transformer à la cause principale. S'il n'y a plus de matière, c'est la cause principale qui donne tout. Donc tout provient de la cause principale. Et la cause principale n'a pas besoin de se servir d'instrument. Alors vous voyez, il y a deux raisons. Il faut voir que la cause principale n'a pas besoin de se servir d'instrument. Donc si elle n'a pas besoin, c'est inutile. Il ne faut pas ajouter le nombre de causes. Le principe, c'est quelque chose qui s'explique par une cause, n'a pas besoin de se multiplier. Deuxièmement, il faut montrer que la cause instrumentale joue son rôle toujours en produisant un effet propre, le dispositif. Or, ce dispositif ne peut pas exister. Donc, impossibilité d'une causalité instrumentale dans la création.